VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui. Eric Comanelatis à la présentation de cette édition du lundi 12 avril 2021. Voici d'abord le sommaire. Nomination d'un nouveau gouvernement en RDC, baptisé gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation. Le Bénin attend dans le calme les résultats d'une présidentielle sans suspense. Le Tchad compte les voix au lendemain de la présidentielle. Les résultats provisoires attendus le 25 avril. Téhéran accuse Israël d'avoir saboté un centre nucléaire et crie vengeance. Dans des minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. À Kinshasa, Kasongo Mwema, porte-parole du président Félix Tshisekedi, a dévoilé aujourd'hui une nouvelle équipe gouvernementale constituée de personnalités toutes acquises à la majorité présidentielle. Cette nomination intervient 4 mois après la rupture de la coalition du président Tshisekedi avec son prédécesseur Joseph Kabila. Des précisions avec Eddy Issango.
Jean-Michel Samalou Koundé, 43 ans, nommé Premier ministre mi-février, a enfin rendu public son équipe des 57 membres, dont 14 femmes. Le gouvernement des guerriers, comme l'avait annoncé 2 mois plus tôt le président Tshisekedi, est né du divorce avec la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila. Les captations ont mis du temps car il fallait bien gérer tous ceux qui sont venus gonfler les rangs de la nouvelle Union sacrée, la plupart étant des transfuges du camp Kabila, mais aussi d'une branche de l'opposition, la Moka, proche de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba. Le nouveau gouvernement devra faire face à l'insécurité accrue dans l'Est qui a provoqué des vagues de protestations de la population contre les Nations Unies. L'économie précaire, la corruption, la gratuité de l'enseignement de base et la situation sanitaire aggravée par la pandémie du coronavirus sont aussi d'autres défis qui attendent ce nouveau gouvernement.
Les Béninois attendent les résultats d'une présidentielle sans surprise. Le chef de l'État, Patrice Talon, semble assuré de la victoire. Le vote s'est déroulé hier dans le calme, après une campagne marquée par des violences. Le point avec Rosine Mounezer.
La commission électorale a reçu les résultats de plus de 400 arrondissements sur les 546 que compte le Bénin. Nous attendons encore ceux du Nord qui arrivent par convoi pour des raisons de sécurité, précise une source à la Sénat qui affirme que le taux de participation sera connu dans la journée. Elle est faible par rapport au précédent scrutin, a affirmé hier soir une plateforme des organisations de la société civile. Les principales figures de l'opposition avaient appelé à boycotter ce scrutin, confisqué selon eux par le président Talon. Des violences étaient redoutées, mais le vote et le dépouillement se sont déroulés dans le calme. La réélection de Patrice Talon, arrivé au pouvoir en 2016, fait peu de doute. Ses adversaires sont 2 candidats très peu connus, les anciens députés Alassane Soumanou et Corentin Koué. M. Talon est accusé d'avoir engagé dans un tournant autoritaire le Bénin, qui était souvent cité comme modèle de démocratie sur le continent.
Au Tchad, la compilation des résultats de la présidentielle se poursuit au lendemain du scrutin, mais les résultats provisoires ne seront connus que le 25 avril. Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, brigue un 6e mandat. Abdourahmane Dia.
Aucun chiffre n'est connu dans l'immédiat, notamment celui du taux de participation, véritable enjeu de ce scrutin. L'opposition la plus radicale considère que son appel au boycott a été suivi. Pour l'opposant historique Saleh Kebzabo, qui s'est retiré de la course, les images qui circulent des bureaux de vote désertés par les électeurs marquent une victoire importante pour l'appel au boycott. L'équipe de campagne de M. Déby s'est pour sa part félicitée dimanche que les électeurs aient massivement participé à cet important exercice démocratique. Pour le chercheur tchadien Kalma Manatouma, la participation a été mitigée dans les grandes villes comme à N'Djamena. Le vote s'est déroulé dans le calme, dans la capitale et dans le reste du pays, à l'exception d'une urne brûlée dans un arrondissement de N'Djamena par un groupe d'individus. Le maréchal Déby a fait largement campagne sur la paix et la sécurité, mais selon ses critiques, le bilan économique est peu reluisant.
Des rebelles ont fait une incursion dans le nord du Tchad hier. Selon l'armée, son groupe a été repéré dans la zone de Zouarké, dans la province de Tibesti, à environ 1000 km de la capitale de N'Djamena. Son chef Mahamat Mahdi Ali a appelé dimanche les Tchadiens à maintenir la dynamique de la pression sur la dictature et à aider les combattants du FACT, le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad, à libérer leur patrie. Il a revendiqué dimanche soir les prises de plusieurs garnisons, notamment Our et Zouarké, tombés sans résistance. Selon lui, l'état-major général des armées rassure la population tchadienne que les dispositions ont été prises pour neutraliser cette colonne rebelle. Un tribunal guinéen a condamné lundi à un an de prison ferme un médecin responsable d'une ONG qui avait milité l'an dernier contre la candidature à un troisième mandat du président Alpha Condé. Il a été reconnu coupable d'incitation à la violence et à l'insurrection, de menaces et d'offenses au chef de l'État. Le docteur Mamadi Onivogui devra aussi payer 30 millions de francs guinéens, soit 2500 euros. Il avait été interpellé en novembre, quelques semaines après la réélection contestée par l'opposition d'Alpha Condé. L'ex-ministre français des Affaires étrangères, Michel Barnier, a renvoyé sur l'Élysée et l'armée la responsabilité des décisions françaises après le bombardement de Bouaké en 2004, le président Jacques Chirac lui ayant dit de ne pas s'occuper de la Côte d'Ivoire. Cité comme témoin au procès de l'attaque contre un camp de la force française qui a tué 9 soldats français le 6 novembre 2004 à Bouaké, M. Barnier était le premier à témoigner parmi les ministres de l'époque. L'ex-ministre de la Défense Michel Alliot-Marie et l'ex-ministre de l'Intérieur Dominique de Villepin sont attendus mardi. Certaines parties civiles les accusent de ne pas avoir tout fait pour retrouver les coupables. L'ancien ministre angolais Manuel Rablé a été condamné lundi à 14 ans de prison pour des faits de corruption, devenant le second ex-ministre mis derrière les barreaux depuis l'arrivée au pouvoir de João Lourenço en 2017. Le chef de la diplomatie grecque, Nikos Dendias, a appelé au départ des forces étrangères de Libye, où il effectue une visite lundi pour la réouverture du consulat grec à Benghazi, dans l'est du pays. La police espagnole a annoncé lundi avoir arrêté 20 personnes qui se livraient au trafic de migrants sur des embarcations de fortune entre le Maghreb et l'Espagne, un réseau considéré comme responsable d'un naufrage au mois de février dans lequel 4 personnes ont trouvé la mort. Ces migrants effectuaient ensuite la traversée vers la péninsule ibérique moyennant 2500 euros à bord de bateaux pouvant contenir 7 à 10 personnes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Joe Biden se réunit lundi avec des parlementaires républicains et démocrates, une rare rencontre visant à défendre son plan d'investissement dans les infrastructures. Joe Biden n'a pour l'instant obtenu aucun soutien chez les républicains pour son projet d'infrastructure qui pourrait, selon lui, créer des millions d'emplois tout en luttant contre le changement climatique. Nous y reviendrons dans la page magazine. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est attendu à Bruxelles de mardi à jeudi pour des consultations avec les alliés de l'OTAN et les responsables européens, a annoncé lundi son porte-parole Ned Price. Les États-Unis ont mis en garde Moscou dimanche contre toute agression en Ukraine. Le chef de la diplomatie ukrainienne sera reçu mardi à l'OTAN. Jens Stoltenberg recevra aussi mercredi le ministre de la Défense américain Lloyd Austin et la situation en Ukraine sera un de leurs nombreux sujets de discussion. L'opposant russe Alexei Navalny, en grève de la faim dans son pénitencier depuis le 31 mars, est menacé d'être alimenté de force par les autorités, ont annoncé lundi ses partisans. Téhéran accuse Israël d'être derrière l'attaque contre son usine d'enrichissement d'uranium de Natanz, promettant une vengeance et une intensification de ses activités atomiques, alors que des efforts diplomatiques sont en cours pour remettre sur les rails l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Les précisions de John Lindon.
Il s'agit sans aucun doute d'un sabotage et nos systèmes de sécurité sont parvenus à identifier l'origine, écrit l'agence de presse officielle IRNA, sans plus de détails, en citant le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. L'usine visée au sein du complexe nucléaire de Natanz est celle-là même où Téhéran a mis en service ou a commencé à tester de nouvelles centrifugeuses permettant d'enrichir plus vite et en plus grande quantité l'uranium. Il est encore trop tôt pour déterminer les dommages causés par l'attaque, a déclaré lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Il assure que la réponse de l'Iran sera la vengeance contre le régime sioniste au moment et à l'endroit opportun. C'est une montée des tensions alors que des discussions sont en cours à Vienne pour tenter de faire revenir les États-Unis dans l'accord de 2015 et de lever les sanctions imposées par Washington contre Téhéran depuis son retrait de cet accord en 2018. L'Allemagne et la Russie disent espérer que cet incident ne va pas saper les négociations actuelles.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Claire Morin-Gibourg.
Au Niger, 20 000 hectares de terre vont être réhabilités dans le cadre du programme Millennium Challenge à Camp Niger. Ce plan qui prévoit de réhabiliter des milliers d'hectares de terres dégradées concerne les communes de Chadakori, de Dan Goulbi, de Guidan Rumji et de Sabon Machi à Maradi. Ce projet permettra aussi d'effectuer des travaux d'irrigation avec distribution de kits pour petits ruminants. Au Cameroun, après 20 ans d'inactivité, le terminal pétrolier du port de Douala-Bonabéry a pu reprendre hier après sa complète reconstruction en accueillant le tanker et ship Barracuda. En provenance de Lomé au Togo, le navire pétrolier en escale à Douala mesure 120 mètres et transporte des produits chimiques et pétroliers. Enfin, une paire de baskets Nike Air Yeezy One, portée par leur inspirateur, le rappeur Kanye West, est proposée aux enchères par Sotheby's, qu'il estime à plus d'un million de dollars, prix bien supérieur du record en la matière. Les chaussures sont l'objet d'une vente privée organisée par la maison d'enchères, ce qui signifie que ni l'acquéreur ni le prix final ne seront connus publiquement, à moins que l'acheteur ne décide de se dévoiler.
Sans transition, nous passons à la page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le club burkinabé Salitas FC a perdu 1-0 face à Djaraf du Sénégal lors d'un match de la quatrième journée de la Coupe CAF disputée aujourd'hui. Les Sénégalais prennent ainsi la tête du groupe C avec 7 points, soit une unité de plus que les Algériens du CS Sfaxien. Les Burkinabés sont derniers de ce groupe avec 3 points derrière l'étoile du Sahel. Direction la République démocratique du Congo, le pays doit accueillir les 9e Jeux de la francophonie et se met dans la dynamique des infrastructures dont le go a été donné par le président Félix Tshisekedi de Kinshasa. Le reportage de Valdo Simon Yamba.
La période des travaux est estimée à 12 mois. Il y a des sites à réhabiliter et d'autres à construire, notamment les villages des Jeux. L'implication du président Tshisekedi, qui a d'ailleurs lancé les travaux les week-ends derniers, est un signal fort, estime le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito.
C'est un signe fort pour la République démocratique du Congo. Et nous croyons que, comme le président lui-même s'est impliqué, donc les choses vont commencer à très bien marcher.
Toutefois, il y a de quoi s'inquiéter quant au respect du deadline fixé par le président Tshisekedi, qui va jusqu'au mois d'avril 2022, estime l'analyste sportif Billy Kinkela.
Je suis tout aussi pessimiste quant à la capacité de la RDC de pouvoir être prêt pour justement réussir le défi en termes d'infrastructure.
12 bâtiments de 7 niveaux, plus rez-de-chaussée à construire, au-delà des sites à réhabiliter, les deadlines peuvent bien être respectés, rassure l'ingénieur en travaux publics et bâtiments Trésor Massamba.
Si on se focalise sur tous les 12 bâtiments au même moment, ça nous permettra au moins de travailler du moins 24 heures sur 24. Donc c'est faisable, c'est réalisable.
Le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, c'est du 19 au 28 août 2022. De Kinshasa, Valdo Simon Yamba, VOA Afrique.
Ici, en NBA, les Los Angeles Clippers poursuivent leur série vertueuse contre Détroit. Contrairement à Denver, passé à côté de sa fin de match contre Boston la nuit dernière. Le point avec Bagassi Koura.
Oui, Paul George, 32,9 passes et Marcus Morris, 33,6 rebonds, aidaient les Clippers à venir à bout d'une coriace équipe de Détroit, 131 à 124 au Staples Center. Denver est tombé devant Boston, 87 à 105. Les Celtics restent 7e à l'Est devant New York, qui a battu Toronto, 102 à 96. Après 3 défaites de rang, les Bucks se sont rassurés chez le mal classé Orlando, 124 à 87. Milwaukee conserve donc sa 3e place à l'Est devant Atlanta, qui a conforté sa 4e place en venant à bout 105 à 101 de Charlotte. Le duel entre 6e de chaque conférence a tourné à l'avantage du Heat chez les Blazers 103-87. Et puis dans le duel texan, Dallas a été battu à domicile par San Antonio 119-117.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Maniakiza toujours avec vous. Place au dossier du jour. Les Béninois attendent les résultats de l'élection présidentielle de dimanche. Le chef de l'État sortant, Patrice Talon, fait face aux anciens députés Alassane Soumanou et Corentin Kouwe, très peu connus. Les principales figures de l'opposition avaient appelé à boycotter ce scrutin. La période préélectorale a connu des violences qui ont fait 2 morts. Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo a joint à Cotonou Joël Ataï-Guédébé, analyste politique.
C'était tenu avec une participation plutôt faible au regard des scrutins précédents, avec 3 villes où le scrutin n'a quand même pas eu lieu uniformément.
Quelles sont ces villes-là?
Je commence par celle de Banté, où le scrutin n'a pas pu démarrer le matin, mais dans l'après-midi, a eu lieu principalement dans les centres urbains. Dans la ville de Tchaourou, le scrutin n'a pas du tout eu lieu. Le matériel électoral a été acheminé sous la garde du commissariat central de la ville, mais les déplacements ont été perturbés par les blocages de camions qui n'ont fini d'être dégagés par la police qu'en fin de journée. Dans la ville de Parakou, 55 km plus au nord, le scrutin a eu lieu de manière éparse. Au total, il n'y a pas eu de violence dans la journée, en dehors de la ville de Savet, où, selon les informations reçues, une tentative, je dirais, de bourrage d'urne pour sondage rapporté a fait l'objet de répression du reste de la population.
Qui a tenté de bourrer les urnes?
Je ne saurais dire quel camp.
Le Bénin a toujours été présenté comme un modèle de démocratie avec des élections qui se déroulent de façon régulière et dans le calme. Cette fois-ci, il y a eu des violences. Est-ce que le Bénin sort grandi de ces élections?
Non, le Bénin ne peut être fier de ces élections. On peut au plus se féliciter d'avoir maintenu un niveau assez bas de violence, mais elle n'honore pas, elle ne saurait jamais honorer une démocratie, puisque la démocratie est basée d'abord sur la discussion, le respect de la différence. Donc il n'est pas admissible que pour contester ou pour soutenir ses opinions, on en soit obligé à venir à des voies de fait. Donc le Bénin doit pouvoir retrouver une autre manière de vivre ensemble, définir les modalités d'un nouveau cycle.
Certains opposants ont appelé à des assises nationales après ces élections-là. Le président Talon, après avoir voté, a dit que ce n'était pas nécessaire. Est-ce que véritablement les politiciens n'ont pas besoin de se parler au Bénin présentement?
Oui, se parler est une chose. Et aller à des assises nationales, à une conférence nationale, probablement une autre. Vous conviendrez avec moi que pratiquement partout, nul pouvoir qui s'estime issu d'élections démocratiques n'accepte ce genre d'assises qui sont susceptibles de se transformer en coup d'état civil, en guillemets. Je voudrais rappeler qu'à partir de 2004-2005, cette proposition d'aller à des assises nationales avait déjà commencé à faire cours et que les partisans de l'ancien président n'ont pas manqué non plus de s'y opposer à l'époque.
L'analyste politique Joël Ataï-Guédébé à Cotonou. Au Nigeria, après les chefs militaires, le président Muhammadu Buhari, sous la pression de la société civile, a limogé le chef de la police. Dans la foulée, il a nommé un nouveau chef de la police peu après l'attaque spectaculaire qui a visé la prison de l'État d'Imo dans le sud-est du pays. Les attentes et les défis sont énormes pour Ousmane Alkali Baba, alors qu'insécurité croissante reste une préoccupation du président Buhari. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
L'ex-chef de la police nigériane Mohamed Adamu devrait prendre sa retraite le 1er février 2021 dernier, après avoir passé le maximum de 35 ans réclus dans la fonction publique. Le président Muhammadu Buhari avait accordé 3 mois de plus à l'ancien inspecteur de la police en attendant de trouver son remplaçant, avait indiqué la présidence.
Cette décision du président avait suscité de vives réactions au sein de la société civile, accusant le chef de l'État de violer la constitution du pays. L'activiste Aisha Youssefou du groupe Bring Back Our Girls a réagi ainsi après la nomination du nouveau chef de la police.
Vous allez souvent vous inquiéter pourquoi il n'y a pas de transparence et un manque de respect de la loi lorsqu'il s'agit de nommer les gens qui doivent assumer des hautes fonctions. En plus de cela, il y a aussi un problème de structure de sécurité de ce pays. Les chefs de nos agences de sécurité semblent tous être originaires d'une seule région.
Certains Nigériens n'ont pas apprécié le travail abattu par l'ancien patron de la police. Ils estiment que la situation sécuritaire du pays s'est détériorée durant la période qu'il a passée à la tête des services de police. La police nigériane, critiquée pour sa brutalité contre les civils et son incapacité à faire face à l'insécurité grandissante dans le pays. Pour Suki Odabi, avocat et activiste, le nouvel inspecteur de la police doit travailler dur pour répondre aux réclamations des manifestations des jeunes contre les brutalités policières.
Le nouvel inspecteur par intérim de la police qui a commencé son travail doit avant tout trouver solution à certaines préoccupations soulevées lors des manifestations contre les brutalités policières. Certaines de ces réclamations concernent la formation des officiers de police, initier une réforme au sein de la police et, si possible, pousser pour une augmentation de leur salaire.
Beaucoup s'attendaient à ce que le président nomme un nouveau chef de la police. Les défis auxquels Ousmane Alkali Baba doit faire face sont énormes. Les explications de Kabiru Adamu, expert en sécurité.
Les défis qui attendent le chef de la police sont énormes. D'abord, il doit reconstruire la confiance entre la police et les citoyens du pays, lutter contre la corruption, voir les conditions de travail de la police, la question d'équipement. Pour lui permettre de reconstruire cette confiance, il doit résoudre tous ces problèmes.
Ousmane Alkali Baba prend ses fonctions à une période très mouvementée au Nigeria. Les Nigériens attendent de voir dans les prochains mois l'impact de la nomination d'un nouveau chef de police en cette période de crise entre les services de police et les populations nigériennes. Gilbert Tamba, Abuja, VOA.
Au Cameroun, 200 000 doses du vaccin chinois Sinopharm contre le Covid-19 ont été réceptionnées hier par le Premier ministre camerounais. C'est un don de Pékin. L'arrivée de ce stock va permettre de déclencher cette semaine la toute première campagne de vaccination contre le coronavirus. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
Cette campagne est pilotée par le programme élargi de vaccination. Ces équipes ont d'ores et déjà élaboré le plan de répartition de 200 000 doses de vaccins dans les 10 régions du Cameroun. Dr Shalom Tchokfeu, secrétaire permanent du programme élargi de vaccination.
Nous sommes prêts. À Yaoundé, il est prévu d'aménager un site au palais de congrès, un autre site au musée national et un troisième site au palais des sports.
Les cibles prioritaires définies par le conseil scientifique des urgences de santé publique vont recevoir le vaccin dans 243 centres répartis dans le district de santé. Des centres de vaccination spéciaux ont été également aménagés dans les grandes métropoles. Joseph Dion Gouté, Premier ministre du Cameroun.
Le ministre de la Santé publique va s'assurer que le personnel de la santé soit d'abord vacciné. Et ensuite, le reste des Camerounais. Quant à moi, je suis prêt à prendre ce vaccin n'importe quand.
Entre mars et février dernier, le coronavirus a infecté 1067 personnels de santé et fait 150 morts, selon le ministère de la Santé publique. Toutefois, les appréhensions sur l'introduction du vaccin contre le Covid-19 existent, y compris au sein du corps médical. Wang Yiguo, ambassadeur de Chine au Cameroun.
Les vaccins Sinopharm, ce sont des vaccins sûrs et efficaces. Plusieurs dizaines de millions de Chinois ont été vaccinés de ce produit. Et ce produit a aussi importé une soixantaine de pays étrangers.
Le Cameroun se rapproche de la barre de 1000 morts, avec plus de 61 000 cas positifs. La semaine dernière, le président de l'Ordre national des médecins et celui du Conseil national des pharmaciens ont apporté leur caution à la vaccination de masse. Docteur Sandjong. Docteur Sandjong, président de l'Ordre national des médecins du Cameroun.
Ceux qui ne veulent pas de vaccin ne le prendront pas. En tant que professionnel de la santé, la vaccination, comme pour la rougeole, comme pour la méningite, comme pour le tétanos, c'est une vaccination sûre et sécurisée.
Le gouvernement encourage les personnes de plus de 50 ans avec comorbidité, les personnes vulnérables, les enseignants, les groupes spéciaux et la masse à se faire vacciner. Au sein de la population, cette interpellation ne fait pas l'unanimité.
Est-ce que vous êtes prêts à vous faire vacciner ou pas ?
Je ne connais pas le corona.
Ah, déjà, je suis du domaine médical et deux, parce que l'immunisation, c'est bien.
AstraZeneca tue encore les gens. Donc, moi, je ne suis pas attendu.
Quatre variétés de vaccins contre le Covid-19 sont attendues au Cameroun. Selon les experts, l'efficacité du vaccin chinois Sinopharm serait de 79%. Il sera administré à deux doses à 20% de la population camerounaise. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les parlementaires américains reviennent à Washington cette semaine avec en tête de leur agenda le projet d'infrastructure de 2000 milliards de dollars du président Joe Biden. Il se réunit aujourd'hui à la Maison-Blanche avec des parlementaires républicains et démocrates, une rare rencontre pour défendre son plan d'investissement dans les infrastructures. Michel Quinn de la VOA fait le point, le récit de Lionel Runamira Gahima.
La rencontre à la Maison-Blanche avec 8 élus du Congrès sera soigneusement mise en scène pour afficher la volonté déclarée du président démocrate de chercher le consensus. Joe Biden n'a pour l'instant obtenu aucun soutien chez les républicains pour son projet d'infrastructure. Citant l'exemple du président Franklin Roosevelt et de son célèbre programme du New Deal pour relever l'Amérique après le crash boursier de 1929, Joe Biden veut transformer le pays au sortir de la pandémie du Covid-19. En plus des investissements dans les routes, les ponts, les voies ferrées, les aéroports en mauvais état, mais aussi dans le réseau Internet à haut débit, il prévoit notamment d'importants investissements pour développer la flotte de véhicules électriques, les écoles, ainsi que les aides à domicile ou la recherche et le développement. Le président américain fait face au même dilemme qu'il avait plus tôt cette année avec son plan de relance économique de 1900 milliards de dollars. Faudra-t-il négocier le contenu du projet et le financer avec l'accord des républicains ou bien aller de l'avant avec le soutien des démocrates ? Le soutien de tous les sénateurs démocrates est encore loin d'être garanti. Le Sénat est divisé à 50-50 entre républicains et démocrates. La vice-présidente Kamala Harris peut faire basculer cette égalité. Jennifer Granholm, la secrétaire américaine à l'énergie.
Le président est prêt à négocier. Il sait que son plan actuel va être changé. C'est la nature même du compromis. Donc, que ce soit dans un gros paquet ou plusieurs petits paquets, il veut parler avec les républicains.
Les dirigeants républicains ont affiché leur opposition au projet, le disant gigantesque. Ils s'opposent aussi à la façon dont Biden propose de financer en augmentant les impôts des sociétés à 28% contre 21% actuellement. Cela va annuler en partie les réductions d'impôts effectuées par le président Donald Trump il y a 4 ans. Les républicains disent espérer que les négociations avec Biden vont mieux se dérouler que l'ont été avec le plan de relance économique. Le républicain Roger Wicker est sénateur du Mississippi.
Nous sommes prêts à négocier avec lui un paquet d'infrastructures. Et je vais juste vous dire que ce chiffre de milliers de milliards de dollars est beaucoup trop élevé pour moi. Mais la négociation doit être quelque chose de différent de ce que nous avons eu avec le plan de relance.
La Société américaine des ingénieurs du génie civil, dans son dernier rapport, attribue une note C- à l'infrastructure américaine. Cette association affirme que des années d'inaction ont laissé le pays avec des routes et des ponts détériorés, tandis que les aéroports et les approvisionnements en eau, les systèmes de transport public doivent être modernisés.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de cette édition. Michel Claire-Joseph, Joselle Morissin, Georges et Léonard Lagnon et Lionel Yamira Gahima. Eric Mandakiza était à la présentation ici dans le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.